L'inspecteur Valentin Verne pénétrait furtivement dans l'hôtel de Rothelin-Charolais, qui abritait les services du ministère des Affaires intérieures. Le message apporté chez lui par un garçon de course lui avait fourni toutes les indications nécessaires pour gagner, sans se faire remarquer, une petite porte ouvrant sur l'arrière du bâtiment. Si le rédacteur s'était montré disert sur ce point, il l'avait été beaucoup moins quant à l'objet de cette singulière convocation dominicale et aux raisons qui justifiaient une telle discrétion. Tout juste était-il mentionné que le chef du bureau des affaires occultes était attendu sur l'heure au ministère pour une affaire de la plus haute importance. La gravité des faits et leur forte implication politique interdisaient d'en écrire davantage, mais toutes les précisions seraient données oralement à l'inspecteur. La signature était illisible, mais portait le sceau du cabinet du ministre. Une fois à l'intérieur du bâtiment officiel, Valentin fut accueilli par un homme entièrement habillé de noir. Taciturne, de haute stature, l'inconnu offrait au regard un front dégarni et d'épaisses rouflaquettes d'un brun clair tirant sur le roux. Mais le plus frappant chez lui, c'était la paralysie qui affectait toute la moitié gauche de ses traits. Ceci donnait l'impression déroutante de se défaire par le bas, entraînant notamment l'orbite, la pommette et la commissure des lèvres dans une sorte de chute au ralenti. De ce côté-là du visage, le globe oculaire avait une fixité dérangeante qui provoquait un vague malaise chez n'importe quel observateur, dans la mesure où l'on ne savait trop si l'homme était borgne, ni précisément quel œil privilégié lorsqu'on s'adressait à lui. En peu de mots et sans prendre la peine de se présenter, cet étrange portier invita Valentin à lui emboîter le pas et le guida à travers un dédale de couloirs déserts, puis un escalier en colimaçon mal commode afin de gagner le premier étage de l'hôtel. Un silence ouaté régnait dans le bâtiment qui semblait comme endormi en cette fin d'après-midi printanier. Parvenu devant une étroite porte aux moulures délicates, l'homme en noir frappa une série de coups cadencés, puis sans attendre de réponse, repoussa le battant, souleva un coin de tenture et précéda le policier dans un grand bureau lumineux. À peine entré, Valentin reconnut les tableaux au mur et l'agencement des meubles. Un mois plus tôt, il avait déjà été reçu dans cette pièce élégante en compagnie de son ami Vidocq, le chef de la sûreté. Seulement, il n'avait pas été introduit par une porte dérobée, mais en passant par une vaste antichambre où patientaient de nombreux solliciteurs. C'est que le bureau de Casimir Perier représentait encore à ce moment-là le centre névralgique du pouvoir, là où se décidait la politique de la France et d'où pouvait pleuvoir, selon le bon vouloir du premier des ministres, faveurs insignes ou disgrâces définitives. Celui qui se trouvait présentement assis dans le fauteuil du président du Conseil n'était pas Casimir Perier. Et pour cause. Il était de notoriété publique que le chef du gouvernement, atteint d'un choléra en phase terminale, se débattait entre la vie et la mort, chez lui, épuisé par les diètes et les saignées ordonnées par son médecin, le fameux Brousset. Engoncé dans une redingote couleur taupe à la coupe démodée, arborant un ruban de la Légion d'honneur pendu de travers à son revers, l'homme assez quelconque qui se leva à l'entrée de Valentin n'avait ni la prestance de l'habituel occupant des lieux, ni son autorité naturelle, qui avait fait dire à Charles de Rémusat, son principal collaborateur, « Je n'ai vu personne l'aborder sur un pied d'égalité. » C'était au contraire un être falot, au dos gibbeux, à la peau terne, et dont la voix nasillarde tenait davantage du murmure embarrassé que du ton de commandement. Il fit signe à Valentin d'approcher et attendit que celui-ci ait pris un siège pour se rasseoir sur son fauteuil du bout des fesses. « Je vous remercie d'avoir fait diligence, monsieur l'inspecteur, » dit-il en frottant nerveusement ses mains l'une contre l'autre. « Voyez bien que si l'affaire qui requiert vos compétences n'était pas des plus urgentes et des plus sérieuses, je n'aurais pas pris la liberté de vous priver de votre dimanche après-midi. » Observer le repos durant ce jour dévolu à notre Seigneur est non seulement un devoir pieux, mais aussi une saine habitude. Valentin leva la main et émit une protestation convenue. « C'est bien naturel, voyons. Un policier est avant tout un homme de devoir et je suis aux ordres de monsieur... Monsieur... Vous avez raison. » marmonna son vis-à-vis en piquant un phare qu'il s'efforça de masquer derrière ses deux mains ramenées paume contre paume devant son visage. J'aurais dû commencer par cela. Je me nomme Comte de Chancy et coordonnais les services de ce ministère jusqu'à ce que la maladie contraigne M. Perrier à prendre quelques repos. Depuis une semaine, Sa Majesté m'a confié la lourde tâche de le remplacer provisoirement à la tête des affaires intérieures. Celui qui faisait donc office de ministre marqua une pause, comme s'il voulait s'assurer que son interlocuteur prenait bien toute la mesure de cette annonce et comprenait quel pouvoir lui était échu. Puis il se détourna pour désigner de la main l'homme en noir qui était venu se placer en retrait à côté du bureau. « Et voici l'inspecteur Alcide Bernet, qui vous secondera dans l'enquête pour laquelle je vous ai fait mander. Vous l'aurez compris, Monsieur Bernet est policier comme vous, mais il ne dépend pas de la préfecture. Son service est directement rattaché à la maison du roi. » Valentin salua l'intéressé d'une brève inclination de la tête. Celui-ci lui répondit à l'identique, tout en conservant un visage fermé. En son fort intérieur, le chef du bureau des affaires occultes commençait à nourrir quelque inquiétude sur la nature de la mission qu'on s'apprêtait à lui confier. Un inspecteur directement rattaché à la maison du roi, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. L'inconnu appartenait à la police secrète de Louis-Philippe. La rumeur publique prêtait à ce service, dont l'existence même était controversée, un rôle de surveillance et de répression des opposants politiques. Société républicaine plus ou moins cachée, cercle légitimiste et amical bonapartiste étaient censés être les cibles privilégiées de cette police officieuse. Le fait de se voir adjoindre un membre d'une telle organisation ne faisait que renforcer l'impression créée par les précautions entourant sa convocation. L'affaire pour laquelle on l'avait fait venir au ministère relevait davantage de la haute politique que du crime de droit commun. Cette perspective contrariait Valentin, qui était entré dans la police pour combattre le mal sous toutes ses formes, mais préférait se tenir à l'écart des soubresauts de son temps. Comme pour confirmer ses appréhensions, le dénommé Chancy reprit la parole pour l'interroger, de son étrange voix de Crécel. « Que savez-vous de la situation dans l'Ouest, Monsieur Verne ?
Vous voulez parler de la situation politique ?
C'est cela même. » Susurra le fonctionnaire en posant une paire de besicles sur le bout de son nez pour parcourir en diagonale une liasse de feuillets qu'il avait conservée jusque-là sous son coude. Nous ne sommes plus en 1793, ni en 1815, bien sûr, mais là où la tempête a sévi, un coup de vent est toujours à redouter.
Valentin haussa les épaules.
« Ma foi, je n'en sais que ce que les gazettes veulent bien en dire. » répondit-il prudemment. Après l'avènement de Louis-Philippe, on a pu observer ici ou là une certaine agitation en Haute-Bretagne et en Vendée. Les paysans y demeurent réfractaires à la conscription et presque tous sont hostiles au désarmement général ordonné par le gouvernement. Mais tout cela ne va pas bien loin. Et l'envoi du général d'Hermoncourt à Nantes le mois dernier semble avoir eu l'effet escompté sur la population. Jusqu'à plus ample informé, le calme règne dans les territoires de l'Ouest.
Chancy abandonna un instant sa lecture pour dévisager Valentin par-dessus ses fines besicles. Il tapota de son index replié le sous-main en cuir de son bureau. « Jusqu'à plus ample informé », répéta-t-il avec un soupçon d'ironie dans le ton. « La formule est plutôt plaisante et bien choisie. Figurez-vous, inspecteur, que c'est précisément l'une des raisons de votre présence dans ce bureau. » Vous informez mieux de ce qui se trame sur ces terres où la révolte semble être comme une seconde nature des habitants. » Il désigna d'un revers de main les documents qu'il venait d'examiner brièvement.
« J'ai ici la synthèse des derniers rapports en provenance de Bretagne et du Poitou, mais aussi du Maine et d'Anjou. Tous concordent. Un soulèvement légitimiste serait en cours de préparation. Toute une organisation secrète viserait à reconstituer une armée royale, dont le but serait de renverser la monarchie de Juillet pour porter le duc de Bordeaux sur le trône. On prétend même qu'un chef important est attendu sur place, et que sa venue pourrait être le signal qui déclenchera la révolte. »
L'homme malingre marqua une pause, dont Valentin, qui se sentait de moins en moins à l'aise, profita aussitôt.
« Pardonnez-moi, » risqua-t-il en triturant le rebord de son chapeau posé sur ses genoux. « Je ne voudrais surtout pas que vous preniez mon observation pour de l'impertinence. Cependant, il me faut reconnaître que je vois mal ce qui vous amène à me confier de telles informations. Je suis un simple policier. Le service qu'on m'a fait l'honneur de me confier a pour unique objet d'élucider des affaires criminelles dont l'apparente étrangeté déroute la raison. Je ne suis en aucun cas compétent pour tout ce qui touche à la politique. »